Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Das Witzige ist, ich weiß immer noch nicht, warum ich vor einem Jahr verhaftet.
Le plus drôle, c'est que je ne sais toujours pas pourquoi j'ai été emprisonné, ou plutôt pris en otage il y a un an, ni pourquoi je suis libéré aujourd'hui. Mais bon, en fait, je sais parfaitement pourquoi j'ai été arrêté, mis en prison et pris en otage, et tous ceux qui ont suivi ce cas, même de manière superficielle, peuvent le comprendre aussi.
Il était devenu un symbole de la dégradation des relations entre Ankara et Berlin. Deniz Yücel a été libéré la semaine dernière. Retour sur le feuilleton de cette affaire qui a tenu l'Allemagne en haleine pendant plus d'un an. Le Kosovo a célébré le 10e anniversaire de sa déclaration d'indépendance. Reportage en deuxième partie de ce magazine à Pristina, la capitale, où les habitants n'ont pas la tête à la fête entre crise économique et tensions avec la Serbie voisine. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue.
Ich freue mich, wie viele, viele andere, dass er heute.
Je me réjouis comme beaucoup d'autres que Deniz Yücel ait pu quitter aujourd'hui la prison. Je me réjouis bien sûr pour lui, pour sa femme et pour sa famille qui ont dû supporter une année très difficile de séparation.
Angela Merkel, le vendredi 16 février, le correspondant du journal Die Welt vient de sortir de la prison de haute sécurité d'Istanbul où il était incarcéré depuis un an et deux jours. Quelques heures plus tard, Deniz Yücel quitte la Turquie. Le matin même, le bureau du procureur d'Istanbul a publié l'acte d'accusation attendu en vain depuis février 2017. Il requiert 18 ans de prison contre le journaliste accusé de propagande pour le compte d'une organisation terroriste et d'incitation à la haine. Dans sa première intervention publique après sa libération, une vidéo postée sur YouTube, Deniz Yücel affirme avoir été l'otage de la Turquie. C'est aussi ce qu'avait laissé entendre un haut responsable du ministère allemand des Affaires étrangères, Michael Roth, en mai 2017, 100 jours après l'arrestation du journaliste.
Une des raisons principales pour lesquelles nous travaillons à la libération immédiate de Deniz Yücel, c'est le fait qu'il est manifestement instrumentalisé à des fins politiques.
2016 et 2017 ont été des années noires pour les relations entre la Turquie et l'Allemagne. Les deux pays ont des rapports historiques étroits, en raison notamment de la présence de plus de 3 millions de Turcs en Allemagne. Mais depuis 13 ans qu'Angela Merkel est au pouvoir, Ankara a vu s'éloigner son rêve de devenir un jour membre de l'Union européenne. La chancelière conservatrice préférant, à l'époque où les négociations étaient encore à l'ordre du jour, un partenariat privilégié avec ce pays à majorité musulmane. À la fin de l'année 2015, l'Union européenne a pourtant été bien obligée de s'appuyer sur la Turquie pour régler en urgence la crise des réfugiés. Sous l'impulsion de l'Allemagne, un accord UE-Turquie sur l'accueil des migrants voit le jour en mars 2016. Mais une première crise diplomatique entre Berlin et Ankara éclate dans la foulée de cet accord lorsque la chaîne allemande NDR publie une chanson satirique contre le président turc Recep Tayyip Erdogan, critiquant à la fois son style de vie et les multiples atteintes aux droits de l'homme en Turquie.
Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich, Erdogan, Erdogan, Erdogan.
Quelques jours plus tard, l'humoriste Yann Böhmermann publie un pamphlet outrancier envers le président turc. Erdogan se sert alors de l'accord migratoire pour faire pression sur Berlin. Avec succès, puisque le gouvernement autorise le parquet allemand à poursuivre l'humoriste pour propos injurieux tenus à l'encontre d'un chef d'État étranger. En juin, une résolution du Bundestag qualifie de génocide le massacre des Arméniens par l'Empire ottoman en 1915, provoquant de nouveau l'ire de la Turquie. Le président turc attaque personnellement les députés allemands d'origine turque, qu'il dénonce comme étant une extension du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme terroriste. Les relations se dégradent encore lorsqu'Ankara interdit à une délégation de haut niveau allemande de se rendre sur la base militaire d'Incirlik, où sont stationnés des soldats dans le cadre de l'OTAN. Le putsch manqué contre Recep Erdogan, le 15 juillet 2016, marque le début d'un tour de vis sécuritaire envers tous ceux qui, de près ou de loin, critiquent le régime. Sous le prétexte de poursuivre les auteurs du coup d'État, Ankara lance une purge de masse dans tous les milieux, journalistiques, militaires, universitaires, judiciaires ou encore politiques. Des milliers de personnes, soupçonnées de liens avec le prédicateur Fethullah Gulen, coupable désigné, sont limogées, suspendues ou arrêtées. En janvier 2017, une quarantaine de militaires de haut rang demandent l'asile à l'Allemagne, mettant Berlin dans l'embarras face à un pouvoir turc qui exige qu'il soit débouté. Et c'est quelques semaines après que Deniz Yücel est arrêté, alors que la chancelière allemande Angela Merkel s'était rendue peu de temps auparavant en Turquie pour tenter d'apaiser les relations. Deniz Yücel est mis en garde à vue par la police turque le 17 février 2017, puis placé en détention provisoire pour propagande terroriste. C'est le premier journaliste allemand à être emprisonné en Turquie. Angela Merkel appelle Ankara à respecter l'état de droit, tandis que l'opposition allemande réclame des sanctions plus sévères. Recep Tayyip Erdogan est alors en campagne pour un référendum qui doit élargir ses pouvoirs. Et les ministres de son parti, l'AKP, organisent des meetings dans des pays européens, notamment en Allemagne, pour obtenir les voix de la diaspora turque. Lorsque plusieurs villes allemandes et européennes décident d'interdire les réunions pour cause de sécurité, le président turc saisit l'occasion pour jouer sur la fibre nationaliste des électeurs turcs. Il qualifie l'Union européenne d'alliance de croisés et s'en prend personnellement à Angela Merkel.
Quand on les traite de nazis, cela ne leur plaît pas et ils manifestent leur solidarité, en particulier Merkel. Tu as recours à des pratiques nazies. Et contre qui ? Contre mes frères qui vivent en Allemagne, contre mes ministres qui se rendent là-bas.
Après la victoire d'Erdogan au référendum, les relations continuent de se détériorer entre la Turquie et l'Allemagne pour atteindre un point culminant en juillet. Plusieurs militants des droits de l'homme sont arrêtés à Istanbul, dont l'Allemand Peter Steudner. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase à Berlin. Sigmar Gabriel, le ministre des Affaires étrangères, interrompt ses vacances pour annoncer une réorientation de la politique allemande.
Wir können nicht so weitermachen wie bisher, wir müssen klarer als bisher sein.
Nous ne pouvons pas continuer comme ça et devons être plus clairs pour que les responsables à Ankara comprennent qu'une telle politique ne reste pas sans conséquences. Nous ne pouvons plus recommander des investissements dans un pays qui ne respecte pas l'état de droit. Par souci de protection de nos concitoyens, nous ne pouvons faire autrement que de réadapter nos consignes de voyage et de sécurité en Turquie.
La menace a-t-elle eu son effet sur le pouvoir turc, confronté à des difficultés économiques croissantes ? Lorsque Peter Steudner est relâché en octobre, Berlin salue en tout cas un signal encourageant et un premier pas. D'autres libérations d'Allemands ou de binationaux suivent. Ankara semble vouloir changer de tactique. Selon les recherches de plusieurs médias allemands, dont la Süddeutsche Zeitung, la diplomatie s'est activée en coulisses pour obtenir ces libérations. Et l'ancien chancelier Gerhard Schröder a joué un rôle décisif, notamment dans celle de Deniz Yücel. Officiellement, aucun marché n'a été conclu entre les gouvernements allemand et turc pour obtenir la libération du journaliste. Monnaie d'échange ou non, depuis la semaine dernière, les relations entre l'Allemagne et la Turquie semblent en voie de réchauffement. Mais il est encore trop tôt pour parler d'un retour au beau fixe de la confiance historique entre les deux pays. Deniz Yücel, lui, goûte à la liberté, contrairement à d'autres journalistes toujours emprisonnés en Turquie. Ils sont, selon Reporters sans frontières, encore 36 sous les verrous, la plupart sans aucune charge. Le procès de Deniz Yücel doit s'ouvrir en juin. Vous écoutez le magazine Vue d'Allemagne sur les ondes de la Deutsche Welle. C'est le pays le plus jeune d'Europe. Le Kosovo vient tout juste de fêter ses 10 ans d'indépendance le 17 février dernier. L'Allemagne et la France avaient été parmi les premiers pays, avec les États-Unis, le parrain historique du Kosovo, à reconnaître ce petit pays balkanique. Il compte un peu moins de 2 millions d'habitants, à plus de 90% des Albanais musulmans. Des tensions subsistent avec la minorité serbe du pays, car la Serbie ne reconnaît pas le Kosovo et estime que c'est une partie de son territoire. Les enclaves serbes ne reconnaissent pas la souveraineté de Pristina, la capitale du Kosovo. Mais du côté des Kosovars, c'est surtout la situation économique et sociale qui vient assombrir la fête. Le chômage de masse touche un tiers de la population. Les Kosovars fuient leur pays en masse, ils sont inquiets pour leur avenir et supportent de moins en moins la corruption et le népotisme qui gangrènent le pays. Reportage à Pristina, la capitale du Kosovo, de Mercija Nezic.
Vivre correctement plus tard en travaillant comme professeur, c'est le rêve de Viora, une jeune étudiante kosovare de 26 ans. Mais ce n'est pas gagné dans son pays. Au Kosovo, le chômage touche la moitié des jeunes. Il n'y a pas de travail pour tout le monde. Et pour en décrocher un, il faut souvent connaître du monde, comme on dit. Viora, comme beaucoup de Kosovars, supporte de moins en moins la corruption et le népotisme. Ces fléaux gangrènent le pays 10 ans après son indépendance. Viora s'angoisse. Pour l'avenir, elle ne le cache pas.
Ici, trouver du travail, c'est vraiment dur. Le salaire, c'est vraiment un bas salaire. J'aurais aimé que nous, les jeunes, on a plus d'occasions de travailler, en fait, et de faire un peu le travail qu'on aime. Il y a beaucoup de gens qui finissent même leurs études et ils finissent nulle part. Ils font des petits boulots par-ci, par-là et rien d'autre. C'est seulement, en fait, on travaille pour survivre. C'est ça qui est difficile chez nous. On n'a pas beaucoup d'opportunités. Même si on a des opportunités, c'est toujours si tu connais quelqu'un, tu vas avoir le travail. Si tu n'as pas de connaissances, tu n'auras pas le travail. Même si tu as toutes les qualités du monde, ben, ils ne tiendront pas ça en compte.
Marietta le sait aussi. Elle qui partage son temps entre ses études un travail dans un call center. Comme d'autres, elle avait tenté de fuir le pays, mais sans succès. 40 000 jeunes Kosovars se sont exilés rien que l'année dernière. Marietta, elle se bat au quotidien pour un meilleur demain sur place, dans ce pays l'un des plus pauvres d'Europe.
J'ai vécu en France pendant 3 ans avec mon mari et ma fille. Alors on a été expulsés car on n'avait pas les papiers. À chaque fois qu'on déposait une demande, on était rejetés. Je ne suis pas vraiment déçue car ici je fais des choses que... Peut-être que je ne pouvais pas le faire en France, en fait. Avoir la permis de conduire, aller à l'université, avoir un bon travail, parce que c'est quand même un bon travail. Pour le moment, je pense de rester ici. J'espère que j'aurai la chance de finir l'université ici. Après, devenir une prof, ça me suffit, en fait.
Même si les jeunes Kosovars tentent de rester optimistes, ils commencent à se décourager. Pour voyager dans les pays de l'Union européenne, ils sont obligés de demander des visas. La procédure est longue et coûteuse. Cette mesure aggrave les problèmes du Kosovo, selon une jeune politologue de Pristina, Donika Emini.
Nous sommes le pays le plus isolé d'Europe. Un jeune professionnel bosnien ou serbe, il peut voyager librement en Europe, aller voir s'il a des alternatives, dans les pays de l'Union européenne par exemple. Seule l'Allemagne a libéralisé son marché du travail pour les travailleurs kosovars qualifiés. Les médecins sont concernés. C'est une aide pour le pays, ils vont revenir. La diaspora kosovare est très liée au pays. En fait, cela aura des retombées économiques positives sur le Kosovo.
Sortir de l'isolement et de la pauvreté, c'est le rêve de nombreux Kosovars. Ils aspirent à rejoindre l'Union européenne. Mais leur pays est loin de remplir les critères d'adhésion. Pour l'heure, face à l'hostilité de la Serbie qui ne reconnaît toujours pas le Kosovo, le jeune État s'appuie sur les États-Unis, son parrain historique. L'ambassadeur américain est un personnage très écouté au Kosovo. Le pays est encore sous protectorat international, ce qui ne rassure pas Karabeg, un retraité de Pristina.
Quand on est un tout petit pays, on est obligé de chercher des alliés puissants. Nous reposer sur les Américains, ça nous paraît la seule solution. Ce n'est pas bon pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes, pour un meilleur demain, lutter contre la corruption. On ne se sent pas en sécurité dans la région à cause de la situation économique. Si la situation était bonne économiquement en Serbie, au Kosovo et dans les Balkans, il n'y aurait pas autant de tensions.
Pour l'instant, malgré une croissance de 3% l'année dernière et une population jeune, l'économie kosovare ne décolle pas. Le salaire moyen s'élève ici à 250 euros par mois. 10 ans après l'indépendance du pays, les Kosovars luttent encore pour survivre.
C'était un reportage de Mercia Nezic à Pristina, au Kosovo, et c'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci aux auteurs de la note du CERFA, la politique turque sous Merkel de septembre 2017, très utile pour retracer les événements qui ont précédé la libération de Deniz Yücel. La semaine prochaine, Vue d'Allemagne vous sera présentée par Hugo Flotatalon. D'ici là, vous pouvez réécouter ce magazine dans la médiathèque de notre site dw.com/français. Portez-vous bien, tchuss !